Bonjour le monde, aujourd'hui, édition du vendredi 22 octobre 2021, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le gouvernement dément avoir mandaté un ministère pour négocier avec les djihadistes.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, nomme 3 ministres dont celui de la défense et le secrétaire général du gouvernement.
Le président Joe Biden affirme que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine.
La Chine et les Occidentaux qui s'accusent de violation des droits humains.
En Haïti, le chef de gang, ravisseur de missionnaires nord-américains, menace de tuer ses otages.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le gouvernement a démenti hier soir avoir mandaté qui que ce soit pour négocier avec certains djihadistes quelques jours après une annonce en ce sens par l'un de ses ministères.
Le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lorsque le gouvernement de la République du Mali jugera opportun d'ouvrir des négociations avec des groupes armés de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés, ajoute-t-il. Le ministre des Affaires religieuses, Mahamadou Kone, avait été cité dans un communiqué la semaine dernière, déclarant que ses services avaient été chargés d'une mission de bons offices en direction des groupes armés radicaux. La France, principal allié du Mali, a toujours refusé un tel dialogue.
Autre point de discorde entre Paris et Bamako, l'affaire Wagner. À ce sujet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que cette société de sécurité privée russe ne reflète pas les intérêts du Kremlin après des informations selon lesquelles des centaines de ses employés se dirigeaient vers le Mali.
La France et l'Allemagne ont mis en garde le Mali le mois dernier contre un accord présumé avec le groupe privé russe Wagner pour embaucher 1000 mercenaires. Ce groupe ne reflète pas les intérêts de l'État russe, a déclaré Vladimir Poutine depuis la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire. Monsieur Poutine a réitéré que Wagner est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, de l'or ou des pierres précieuses. Mais si ces activités entrent en conflit avec les intérêts de l'État russe, alors bien sûr nous devons réagir, a déclaré Monsieur Poutine. Il affirme avoir discuté du sujet à plusieurs reprises avec le président français Emmanuel Macron. Le groupe paramilitaire Wagner serait financé par l'homme d'affaires Yevgeny Prigozhine, proche de Poutine. Il a été frappé de sanctions par l'Union européenne et les États-Unis, qui l'accusent de déstabiliser la Libye. Prigozhine a toujours nié des liens quelconques avec le groupe Wagner.
Au Burkina Faso, les autorités ont autorisé hier le Conseil norvégien pour les réfugiés à reprendre ses activités suspendues le 27 septembre dernier. L'ONG, qui avait été accusée d'avoir jeté le discrédit sur le gouvernement, aurait fait son mea culpa selon les autorités.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis septembre, a nommé 3 militaires ministres dans le gouvernement de transition du premier ministre Mohamed Béavogui. Le général à la retraite Aboubakar Sidiki Camara, ancien ambassadeur de la Guinée à Cuba, réputé proche de M. Doumbouya, a été nommé ministre délégué chargé de la défense nationale.
Selon un décret lu sur la télévision nationale, le colonel Bachir Diallo, ancien conseiller militaire à l'ambassade de Guinée au Canada, a été nommé ministre délégué à la sécurité et à la protection civile. Abdourahmane Sike Camara est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Et Luopu Lama, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est devenue ministre de l'environnement et du développement durable.
En Sierra Leone voisine, le gouvernement a présenté ce jeudi un projet de loi qui permettra aux femmes d'occuper 30% des sièges du Parlement et des postes ministériels. Le président Julius Maada Bio a approuvé l'initiative cet été conformément à une promesse électorale. Le projet de loi vise également à améliorer l'accès des femmes au financement et à lier les dépenses publiques à l'amélioration de l'égalité des sexes. Et au Nigeria, 30 étudiants kidnappés par un gang criminel il y a plus de 4 mois dans le nord-ouest du pays ont été libérés, ont annoncé hier des autorités locales.
30 étudiants du Federal Government College Benin Yaouri sont arrivés à Benin Kebbi, la capitale de l'état de Kebbi, après leur libération, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du gouvernement local, Yahya Sarki, ajoutant que les efforts se poursuivent pour obtenir la libération des autres étudiants. Des hommes armés ont attaqué le collège du gouvernement fédéral à Kebbi le 17 juin. Selon des habitants, les assaillants ont blessé 5 personnes, dont 4 étudiants. Des groupes criminels ciblent les États du centre et du nord-ouest, pillant des villages, volant du bétail et kidnappant contre rançon. Ils ciblent également les écoles, enlevant les élèves pour obtenir des rançons. Plus de 1000 étudiants ont été enlevés depuis décembre par des hommes armés.
En Libye, une conférence ministérielle internationale s'est tenue ce jeudi à Tripoli pour consolider le processus de transition. Cette conférence survient au moment où le pays s'engage dans la dernière ligne droite vers des élections.
Selon le communiqué final lu par la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, le gouvernement libyen est engagé à respecter les résolutions de l'ONU et à créer un environnement propice à la tenue des élections nationales transparentes et inclusives le 24 décembre. Tripoli a également réitéré son refus des ingérences étrangères dans ses affaires libyennes et les tentatives de semer le chaos en Libye. Elle a promis que la Libye respecterait ses engagements en matière de droits humains. Plusieurs chefs de diplomatie, dont le français Jean-Yves Le Drian et l'italien Luigi Di Maio, ont assisté à la conférence aux côtés d'homologues des pays arabes. Dans un discours devant les participants, M. Le Drian a salué les progrès remarquables réalisés sur les plans politiques et sécuritaires. La tenue des élections présidentielles et législatives le 24 décembre est désormais à portée de main après l'adoption de la base juridique nécessaire à leur organisation, a-t-il déclaré. Aucune annonce n'a cependant été faite sur une réunification de l'armée. Si en théorie, le pays dispose désormais d'un pouvoir unifié, la région orientale de Cyrénaïque est contrôlée de facto par le maréchal Khalifa Haftar, lui-même candidat probable à la présidentielle.
L'Éthiopie a dit avoir effectué ce jeudi une nouvelle frappe aérienne sur la capitale de la région du Tigré en guerre. La quatrième de la semaine, affirmant cibler des infrastructures militaire des rebelles. L'Eswatini, la dernière monarchie absolue d'Afrique, a interdit jeudi les manifestations au moment où des médiateurs de la SADC sont arrivés dans ce pays secoué par une vague de mouvements de protestation contre le régime.
En Russie, la mairie de Moscou se prépare à une fermeture de 11 jours de tous ses services non essentiels à compter du 28 octobre, dans l'espoir d'endiguer la grave flambée de l'épidémie de COVID-19 qui frappe le pays.
Restaurants, salons de beauté, magasins de vêtements ou de meubles, salles de sport ou écoles de danse ont 8 jours pour s'organiser avant cette fermeture. Parallèlement, une semaine chômée dans tout le pays a été annoncée par Vladimir Poutine. Le président russe va s'abstenir pendant cette période de participer en personne à tout événement et va travailler à distance, a annoncé le Kremlin. Depuis des semaines, la Russie ne cesse de battre ses records quotidiens de décès et de contamination, une hécatombe à mettre en lien avec le faible taux de vaccination, à peine 32% de la population, et les autorités ont tardé à réagir. Ces derniers jours, elles ont finalement annoncé leurs premières mesures concrètes comme la mise en place de passes sanitaires et le renforcement du télétravail. Moscou est de loin le principal foyer épidémique du pays et son maire, Sergueï Sobyanin, a ordonné hier la suspension du travail de la majeure partie des entreprises pour une période qui coïncide avec des vacances scolaires. Pour lui, la situation à Moscou continue d'évoluer selon un scénario du pire.
Wilson Joseph, le chef du gang haïtien qui a enlevé 17 citoyens nord-américains samedi à l'est de la capitale Port-au-Prince, a menacé d'exécuter les otages dans une vidéo tournée mercredi et partagée hier sur les réseaux sociaux. Il exige une rançon de 17 millions de dollars.
Le président américain Joe Biden a affirmé hier que les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire. « Oui, nous avons un engagement en ce sens », a déclaré M. Biden lors d'un échange retransmis sur CNN avec des électeurs à Baltimore.
43 pays ont réclamé jeudi à la Chine, dans une déclaration commune lue à l'ONU par la France, de garantir le plein respect de l'état de droit à l'égard des Ouïghours au Xinjiang, s'attirant une vive critique de Pékin, dénonçant un bilan terrible en droits humains de Washington, Londres et Paris.
Un chirurgien canadien a réalisé fin septembre ce qui ne s'était jamais fait, greffer un poumon transporté quelques minutes auparavant grâce à un drone entre deux hôpitaux du centre-ville de Toronto. Le défi maintenant est d'adapter cette technologie pour la rendre accessible aux patients du monde entier, a dit le docteur Shaf Keshavgi, qui a collaboré avec une équipe technique pendant 2 ans pour réaliser ce vol. Il a rappelé que le poumon est le plus fragile de tous les organes à conserver et à transporter. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information avec Nanit Talani. Comme vous pouvez le constater, nous avons quelques incidents techniques.
ya bo pekisi misalami ya bo pombwe pepo we tuka ya nordi ya kivu e kamusi mingi ba ilingomba lutia. Clovis Mutsuva abandi yete mbula matali ya Kongo Demokratik nde etiki yango.
Baja se suspendre ba vol na kati ya mboka beni na Butembo. Bizo nde to sufrir. Ekonomi na biso ezo vrema sufrir mingi ba komersa nde marchandise bandiko matasir le marché ba bilamba ba nini e bandiko mato. Siko tozo approche ba fete. Nde omoni ata ba insekirite za kotoyo mena fete ba tubalinga kabamo na nako insekirite na banzela partout mwaye moko ya kosala mouvement e ezalaki ko voyage na vol. Me siko tomo na kaba vol lisusute.
Ungambo ya ba kambi ya ba kompanyi bizi bi PCA ba boibo kitesi bwa mobembo bwa mpepo na mbula matali ekolo Kongo Demokratik. Na kumbu ya tata mkondi wa ekolo Kongo Demokratik, tata moyange lietuka ya nordi ya kivu, lieutenant general Ndima Kostan, ndi ya yambaki, meri ya ingumba beni.
Je me fais le signe honneur.
Na kumisi mingi ba partenaire lokola OIM Monisco pembula matali etuka ya nordi ya kivu pwete bandimaki ko tonganda ku eyesima ya kuziki sama na bafondi ba ebazalaki ko pamela bozangi bokengi. Na kumbu ya tata mokonzi wa ekolo na yambi yango tubundulo ete ndaku ya mundele mboka beni etumbamaka na bafondi baye bazalaki kopamela bubu mwami ya ba ADF.
Mbolobeli wa gouverneur etuka ya nordi ya kivu general de brigade Sylvain Ekenge asakuli ete po na bapingama ekolo Kongo Demokratik ezalite ba ADF nde bazali koboma na chefri ya bashu
batu wakufeki po na atake ya ba ADF te ezalaki nde baya ikokunda mambra ya famii moko wana famii royal pe bake ko profane kunda na ye na ba monsusu famii wana pe baye ko satake na batu baza ngomba wana ezaki asasina moko cible na bandako batumbaki bandako mwambi ezaki cible po na biso koze ya makambo yonso wana ezali konflit oyo eza na ngomba ya bokoko o famille royale baza kobunda seke bandeko mosusu bakendeki kobenga bagroupe armé mpo bakoregle bakonte epai ya bamosusu baza wana
kino boye bafondi basili kokima motendero mpe nzinganzinga
me eloko mabe ezo emerde ngai okumi na lopitalo kuna bazwaka tension na la fin bamoni tension naye normal bapike ofutonga alors que likambo ezali awa avo tusa tusa kuna nio balinga baosala na poto kuna avo tusa bakoolekisana na bilo general osali bilo general na yo a partir de là tokosala le vaccin me awa ekomi kaka bazwaka tension wana na la fin batie yo vaccin nanga aligi ke letat congolain azwaka baprecaution na likambo wana aede biso.
Ce qui baïke bandi misami, kokati sisi ya mama ngwele, na pembeni basusu bazwi yango lokola liseki.
Ya solo gouvernement obligé biso toujours à vaccin au plus tard le 31 octobre, mais pour nanga nazo kwa nanga na maladie yango te. Quand ce gouvernement obligé biso toujours à vaccin yango, fuka toujours, mais sinon pour nanga vraiment maladie wana nazo kwa nanga yango te.
Na yango, esengeli koyeba ete tina kokati sisa moto nyonso mangole, ezali po ete bato banso bisika bazwami bako kakokanga solo nzela na bokono bwa COVID-19 mwe mozali na nguya makasi ya kutia bikolo nyonso mabolongo na se.
Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrika.
VOA Afrique, Washington DC, essayons de voir si on peut reprendre le cours normal de notre programmation. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le financement de l'habitat au Cameroun pâtit des conséquences du non-remboursement des créances, des difficultés de recouvrement rapide par voie judiciaire, du taux d'endettement élevé de la clientèle et du changement de domiciliation bancaire des clients. Le déficit de logement est estimé à 2,5 millions d'unités en milieu urbain, malgré l'existence du crédit foncier du Cameroun. MSF Africa a signé un accord pour acquérir Capricorn Digital. L'entreprise vise à amener les petites et moyennes entreprises du Nigeria vers le reste de l'Afrique et du monde. Présente dans plusieurs pays africains, MFS Africa a créé le plus grand hub de paiement numérique du continent, connecté à plus de 170 millions de portefeuilles mobiles en Afrique subsaharienne. Capricorn gère un réseau de paiement numérique sous la marque Baxi. Les eurodéputés ont demandé hier à la Commission européenne de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de méthane, tout en appelant à un accord mondial à la COP26 prévue à Glasgow en novembre. Le mois dernier, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé d'autres pays à rejoindre leur projet visant une réduction des émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le parquet a requis à Versailles en France 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema. L'international français est accusé de complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape, dont la victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Contre les quatre autres prévenus, Mustapha Zaoui, considéré comme le cordon ombilical de cette affaire, Karim Zenati, l'ami d'enfance de Benzema, Axel Ango, qui a trouvé la vidéo et l'a conservée en vue d'une utilisation ultérieure, l'intermédiaire Younes Hawass. Le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 4 ans de prison. Le stade qui accueillera la finale du Mondial 2022 au Qatar, le Lutsey Stadium, est terminé à 98,5%, a déclaré le chef de projet en charge de l'équipement. Selon Tamine El Abed, les phases de tests et d'homologation nécessaires au fonctionnement du site représentent le 1,5% restant. Le stade, situé à 20 km de la capitale Doha, pourra accueillir de 85 000 à 86 000 spectateurs, bénéficiant d'une vue totalement dégagée sur le terrain. Il fait partie des 8 stades flambant neufs bâtis de toutes pièces pour cette Coupe du Monde Qatari. Le président du Bayern Munich, Herbert Henné, dit être opposé à l'organisation d'une Coupe du Monde de football tous les 2 ans, comme le propose la FIFA. Les joueurs, les entraîneurs, tous ceux qui exercent des responsabilités dans les clubs se plaignent des trop nombreux matchs et maintenant le rythme des Coupes du Monde devrait être augmenté. Cela n'a aucun sens, a affirmé le dirigeant du géant allemand. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé mercredi à trouver un consensus sur la question de l'organisation d'une Coupe du Monde biennale et annoncé la convocation d'un sommet en décembre sur la question. Et parlant du Bayern Munich, son entraîneur Julian Nagelsmann, pourtant vacciné, a été contrôlé positif au Covid-19 et va se placer en quarantaine, a annoncé le club. Le coach de 34 ans n'était pas présent mercredi à l'Estadio d'Alus pour assister à la victoire de son équipe 4-0 en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Il avait cependant fait le déplacement au Portugal mardi, mais était resté isolé à l'hôtel par précaution. Selon le ministère de la Santé, toute personne testée positive au coronavirus doit se mettre 14 jours en quarantaine. En théorie, Nagelsmann devrait ainsi rater 4 rencontres du Bayern, dont le match retour à domicile contre les Portugais le 2 novembre. Il pourrait retrouver le banc contre Fribourg le 6 novembre.
Voilà, merci Yakuba. VOA Afrique, Washington DC. Maintenant, 2 dossiers pour terminer. Au Bénin. Le Bénin est devenu ce jeudi l'une des très rares nations en Afrique à autoriser l'avortement après le vote par l'Assemblée nationale d'une loi qui divise fortement l'opinion. À ce sujet, un reportage à Cotonou de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Longtemps agitée par les pro-avortements sécurisés, la loi qui donne le droit aux femmes béninoises d'avoir recours à l'avortement dans certaines conditions a été votée par les députés. Une banalisation de la vie humaine selon la conférence épiscopale représentée par Monseigneur Eugène Rondécamp.
Cette loi n'est rien d'autre qu'une légalisation pure et simple de l'avortement. Face à une décision aussi grave, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout de celle de l'innocent.
Plus de 200 femmes décèdent en silence chaque année des suites d'avortements compliqués et non sécurisés. En 2003, le Bénin avait déjà perçu le danger en adoptant une loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Ce texte, en son article 17, avait autorisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions exceptionnelles, notamment quand la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ou lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité. Jeudi, les députés ont complété ces dispositions donnant droit à la femme de décider d'interrompre une grossesse si elle sait qu'elle n'a ni les moyens financiers, éducatifs pour s'occuper de l'enfant. Pour Abdoulaye Razak, imam d'une mosquée à Cotonou, qu'importe les conditions, on n'a pas le droit de mettre fin à une vie.
Avorter un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal. Alors, lorsque vous empêchez un processus qui vise à donner un résultat, qui est l'arrivée au monde d'un être humain, alors c'est dangereux. Surtout que si vous le faites consciemment.
Pour le révérend pasteur Miché Agboaï, l'homme ne devrait pas se substituer à Dieu et décider de l'avenir d'une vie qui ne lui appartient pas.
Dans la Bible, c'est clair. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Il est hors de question qu'un homme reprenne la vie, même celle qu'il prétend ne pas voir et qui est sous forme embryonnaire dans le sein de quelqu'un. L'homme n'a pas le droit de reprendre la vie, tout comme l'homme n'a pas le droit de se faire justice et en commettant un meurtre.
Ne faut jamais tuer vos enfants sur la crainte de la pauvreté.
Les Béninois sont divisés sur la question. Pour certains, les députés n'ont fait que donner un caractère officiel à quelque chose qui se faisait depuis des lustres. Pour le gouvernement, il est nécessaire d'en arriver là si l'on veut arrêter le carnage en cours. Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, parle d'un vote historique qui va protéger la femme, mais les religieux invitent déjà la Cour constitutionnelle à se pencher sur cette loi qui ne tient pas compte du caractère sacré de la vie humaine. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Merci Ginette. La Chine est qualifiée d'usine du monde. Aussi, lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées partout. Les retards de production ont été suivis par des retards d'expédition. Maintenant, il est difficile et parfois impossible d'obtenir certains produits. Un reportage de Caroline Pressouti, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
C'est l'heure du déjeuner au Green Peak Bistro. Et cela pourrait même être un des samedis les plus chargés depuis 10 ans pour ce restaurant basé en Virginie. Les clients sont de retour. Au-delà des commandes de nourriture, il manque plusieurs choses à la chef cuisinière Tracy O'Grady, notamment une plaque à induction.
Cela fait 2 mois et demi que nous attendons cette plaque.
Et 4 mois pour recevoir une cave à vin.
Ça peut être encore sur un bateau, à l'usine, dans le port ou dans un camion.
La pandémie de COVID-19 a créé un retard majeur dans l'approvisionnement des produits en provenance de Chine. De plus, les goulots d'étranglement dans les ports américains ont contraint des dizaines de porte-containers à attendre au large. Sans travailleurs pour décharger et sans espace d'entrepôt disponible, il n'y a pas de solution pour acheminer les produits aux consommateurs. Et beaucoup d'Américains attendent quelque chose. Ces mamans s'inquiètent pour les cadeaux de Noël.
J'essaie d'acheter la PlayStation 5 depuis plus d'un an. Certains blogs répertorient des sites où vous pouvez les trouver, où c'est disponible. Mais le temps de se connecter, tout disparaît.
Ajoutez à cela les vélos, les voitures, les chaussures et les appareils électroniques. James Sampson possède la chaîne de magasins Wireless RXX dans la région de Washington DC. Presque tous ses composants sont expédiés de Chine. Ce qui prenait auparavant de 3 à 5 jours prend maintenant jusqu'à 8 semaines.
Cela affecte notre client. Cela affecte les prix que nous devons donner aux clients parce que les prix d'expédition augmentent. Et cela affecte le temps pendant lequel nous pouvons réellement faire les préparations.
Le président Biden a déclaré que les ports californiens avaient accepté de fonctionner 24 heures sur 24, y compris les week-ends, pour éliminer ces engorgements. Au-delà de ça, il dit que les États-Unis doivent investir aux États-Unis.
Plus jamais notre pays et notre économie ne doivent être incapables de fabriquer les produits essentiels dont nous avons besoin parce que nous n'avons pas accès aux matériaux pour fabriquer ce produit.
La chef O'Grady est d'accord, mais pour l'instant, elle doit compter sur l'économie mondiale.
Je ne suis pas certaine que cela affecte nos résultats, mais cela affecte évidemment notre stress et cela m'éloigne des choses que j'ai vraiment besoin de faire.
Comme pour laver une assiette rapidement, ne pas avoir à courir derrière la pièce qui manque au lave-vaisselle.
VOA Afrique, Washington DC, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Nani Talani, Michel Joseph à la mise en onde et Nick Ivanov à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.